On doute une résurgence du choléra à Kilwa dans le Haut-Katanga.
En effet, les aires de santé de Luanza et de Lusalala, considérées comme des zones à risque dans la cité de Kilwa, territoire de Pweto dans la province du Haut-Katanga, manquent d'instants pour la lutte contre le choléra, a indiqué lundi dernier à nos confrères de la radio Okapi le médecin-chef de zone de Kilwa, Dr Alexandre Mutalanga. Chaque année, ces aires enregistrent jusqu'à une vingtaine de cas de choléra. Il y a 2 semaines, 9 cas de cette maladie avaient été pris en charge. Mais il y a risque d'une résurgence si jamais les intrants ne sont pas prépositionnés à Kilwa, a estimé le docteur Mutalanga. Dans cette cité, l'eau ne coule que de quelques robinets. La population recourt à l'eau des sources non traitées.
Terminons cette rubrique par cette initiative de plus de 150 organisations à travers le monde qui ont demandé à l'OIT, c'est l'Organisation internationale du travail, de ne plus accepter de fonds venant des fabricants du tabac et de couper tous les liens avec cette industrie.
En effet, dans une lettre adressée aux membres du conseil d'administration de l'OIT, des organisations gouvernementales et non gouvernementales de la santé et de la lutte contre le tabac ont averti que l'OIT risquait de ternir sa réputation et l'efficacité de son travail si elle ne mettait pas fin à ses relations avec les industries du tabac. L'agence de l'ONU chargée d'établir des normes internationales du travail a été critiquée pour ses partenariats avec des fabricants de tabac et accusée de compromettre les efforts visant à réguler l'usage du tabac et réduire ses impacts négatifs sur la santé.
Et puis le conseil d'administration de l'OIT doit décider dans quelques semaines si elle doit rejoindre d'autres agences de l'ONU, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, pour refuser de collaborer avec cette industrie.
Oui, l'OIT a jusqu'à présent expliqué que ses liens avec les producteurs de tabac lui donnent un moyen d'aider à améliorer les conditions de travail de quelque 60 millions de personnes employées dans la culture du tabac et de la production des cigarettes dans le monde. L'agence a reçu plus de 15 millions de dollars de la société Japan Tobacco International et des groupes liés à quelques-uns des plus grands fabricants de tabac pour des partenariats de bienfaisance destinés à réduire le travail des enfants dans les champs de tabac.
Mais alors, Firmin, les auteurs de la lettre adressée à lundi soulignent que ces projets n'ont qu'un impact symbolique sur cette pratique.
En effet, Rosine, Mark Harley, qui préside la campagne pour un tabac sans enfants, une des organisations signataires de la lettre, a souligné l'importance de couper les liens avec cette industrie. Les producteurs de tabac utilisent leur appartenance à des organisations respectées comme l'OIT pour se donner une image de citoyens responsables, alors qu'en fait, ils sont la cause première d'une épidémie de tabac mondial qui pourrait tuer 1 milliard de personnes dans le monde au cours de ce siècle, a-t-il averti. Le porte-parole de l'OIT, Hans van Rollen, a déclaré à l'AFP que la poursuite ou non de la collaboration avec l'industrie du tabac pourrait être décidée à la fin de la réunion du conseil d'administration pendant la première semaine de novembre.
Merci Firmin.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Selon les projections de l'Organisation des Nations Unies, la population mondiale des personnes âgées devrait doubler d'ici 2050. Ces projections signifient donc que les conditions de vie s'améliorent et que l'espérance de vie augmente. Mais vieillir s'accompagne de nombreux soucis de santé qui se traduisent par l'affaiblissement physique, la dénutrition, le stress cardiovasculaire, l'incontinence, les pertes de mémoire, les pertes d'audition, les pathologies de l'œil, la démence. De plus en plus, les personnes âgées sont aussi victimes de prostate et de la maladie d'Alzheimer. Pour plus de détails, nous avons contacté le professeur Koumé Mamadou. Il est gériatre et gérontologue, chef du service de gériatrie au Centre hospitalier national universitaire de Fan à Dakar, au Sénégal. Il commence par nous expliquer pourquoi l'Afrique est concernée par le phénomène du vieillissement.
L'Afrique et les pays en voie de développement de manière générale sont plus concernés par ce phénomène parce que la majorité des personnes âgées ayant plus de 100 ans vont vivre dans les pays en voie de développement, notamment en Afrique. Parce que ce qui se passe, c'est la transition démographique, c'est-à-dire le vieillissement de la population. Je donne un simple exemple. La France a mis plus de 100 ans pour voir le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus passer de 7% à 12%. Vous prenez un pays comme le Brésil, ça va faire 25 ans. Donc nous allons connaître en quelques décennies ce que les pays développés ont connu en 100 ans. Donc un vieillissement plus rapide de la population. Et ça, c'est dû au phénomène de la transition démographique. Donc vraiment, nous sommes plus que concernés par le vieillissement de la population mondiale.
Alors, professeur, contrairement aux pays européens ou américains dans lesquels les personnes âgées disposent généralement de centres spécialisés, de retraite, de prise en charge, en Afrique, les personnes âgées vivent dans les familles, les domiciles de leurs proches, de leurs parents. Alors, est-ce que selon vous, cette manière de faire, cette manière de gérer les personnes âgées, selon vous, constitue un handicap dans le suivi de ce type de personnes?
Cela ne constitue pas un handicap. Il y a deux phases qu'il faut voir dans la prise en charge de la personne âgée. La phase où la personne âgée est relativement autonome. À ce moment-là, les structures de santé publique peuvent prendre en charge la santé des personnes âgées. Notamment, si je prends au Sénégal, vous avez ce qu'on appelle le plan Sésame de soins gratuits pour les personnes âgées. Le gouvernement du Sénégal a mis en place un programme qui permet aux personnes âgées d'être soignées gratuitement sans payer dans les structures de santé publique, les centres de santé, les postes de santé et les hôpitaux. Il n'y a pas de problème. La deuxième situation à laquelle nous sommes très souvent confrontés et qui pose un problème, contrairement aux pays développés, c'est lorsque surviennent les complications des syndromes gériatriques, c'est-à-dire lorsque la personne âgée perd son autonomie. Dans les pays développés, ces personnes âgées qui perdent leur autonomie sont intégrées dans ce qu'on appelle les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes, c'est-à-dire les maisons de retraite. Alors nous n'avons pas les maisons de retraite au Sénégal et en Afrique, de manière générale. Alors dans ce genre de situation, les personnes âgées seront obligées d'être prises en charge par leur famille. Or, les familles ne sont pas préparées à la prise en charge de ce type de pathologie. Et les syndromes démentiels, la dénutrition, la perte d'autonomie, c'est vraiment là où l'Afrique a une insuffisance.
Quels sont les types de maladies les plus fréquentes chez les personnes âgées que vous suivez? Quelles en sont les causes? Quelles en sont les manifestations?
Oui, nous avons eu à faire en 2000 une enquête nationale qui a porté sur plus de 1111 personnes âgées sur l'ensemble des 14 régions du Sénégal. Et nous avons pu dresser le profil pathologique des personnes âgées. Et dans le cadre de mes enseignements, j'ai demandé à mes étudiants de faire des enquêtes dans le pays respectif. Et la tendance qui se dégage, c'est que vous avez 70% des maladies chroniques et 30% des maladies aiguës. C'est-à-dire ça. En même temps que la transition démographique, c'est-à-dire le vieillissement de la population, nous sommes en train de vivre la transition épidémiologique. C'est-à-dire que vous avez une persistance des maladies aiguës transmissibles mais avec l'émergence des maladies chroniques. Au Sénégal, ce qui se passe, vous avez d'abord les maladies cardiovasculaires, avec en tête l'hypertension artérielle, puis vous avez les affections oculaires, le glaucome, la cataracte, vous avez les affections rhumatismales, vous avez le diabète, et vous avez les troubles cognitifs, et enfin les affections urogénitales. Voilà les pathologies chroniques qui frappent les personnes âgées, et pour lesquelles, bon, je pense que nous avons quand même pas mal d'infrastructures pour les prendre en charge. Maintenant, ce que nous craignons, c'est l'installation de ce qu'on appelle les syndromes gériatriques qui se trouvent une des complications majeures des pathologies cardiovasculaires et du diabète, c'est-à-dire la dénutrition, la démence, les risques de chute, les dépressions et tous ces syndromes gériatriques, c'est-à-dire ces pathologies que l'on voit le plus fréquemment chez les personnes âgées, ont pour conséquence majeure ce qu'on appelle la perte. Autonomie. Le sujet âgé devient complètement dépendant de son entourage et là, vraiment, nous n'avons pas assez d'armes pour les prendre en charge.
Oui, au regard des différentes pathologies que vous venez d'énumérer, quelles sont les recommandations que vous donneriez aux familles qui, justement, hébergent les personnes âgées en Afrique? Quels sont les conseils pratiques pour un meilleur suivi de ces personnes?
Alors, les conseils pratiques vont tourner autour de maître mot, c'est-à-dire maintenir le plus longtemps possible l'autonomie de la personne âgée. Cela suppose d'avoir, de développer des habitudes de prévention, prévenir la perte de l'équilibre, prévenir la dénutrition, prévenir la déshydratation, prévenir la démence, prévenir la dépression. C'est-à-dire, il faut aménager l'environnement de la famille pour que la personne âgée ne puisse pas tomber. Parce qu'on sait que quand on vieillit, quand on prend de l'âge, on a plus de risques de tomber. Et quand on tombe, évidemment, on peut avoir des complications telles que la fracture. Alors, il faut aménager l'environnement de la personne âgée pour que la personne âgée ne puisse pas tomber. Deuxièmement, il faut veiller régulièrement à l'hydratation de la personne âgée, surtout que nous sommes dans des pays où c'est très très chaud et la personne âgée a tendance à se déshydrater. Donc il faut hydrater régulièrement les personnes âgées, il faut veiller à une bonne nutrition, fractionner les repas, donner, varier l'alimentation et l'enrichir. L'autre chose aussi, c'est de faire en sorte que la personne âgée puisse rester au centre de la famille. Il ne faut pas la déconnecter, parce que si vous isolez la personne âgée, elle va déprimer, elle va entrer dans un cercle vicieux. Donc il faut l'intégrer au maximum dans les activités de la famille et amener régulièrement la personne âgée chez son médecin pour éventuellement suivre s'il y a un diabète, s'il y a une hypertension artérielle, autre chose.
Alors, pour finir, c'est une question que beaucoup de jeunes se posent. Quels sont les conseils pratiques, quel style de vie, quelles pratiques adopter pour les jeunes Africains qui aspirent à vivre longtemps, à augmenter leur espérance de vie et plus tard à devenir des personnes âgées?
Voilà. Le conseil pratique que je donnerais aux jeunes personnes, c'est la prévention en ayant une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie passe d'abord par une alimentation saine, c'est-à-dire une alimentation pauvre en graisse, très riche en fruits et légumes. Consommer modérément l'alcool, éviter la consommation de tabac, avoir une activité physique régulière, au moins 30 à 45 minutes d'activité physique trois fois par semaine. Il faut bien sûr veiller à la vaccination contre les maladies infectieuses qui sont très génératrices de perte d'autonomie. Et enfin, il faut quand même préparer sa retraite. Il faut souscrire à une assurance pour pouvoir, une fois arrivé à un âge avancé, pouvoir bénéficier d'une pension. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on arrive à la retraite, les revenus baissent. Donc il faut se préparer à faire baisser les revenus. Maintenant, quand vous avez des enfants, il faut veiller à l'éducation des enfants. Parce que plus tard, quand vous serez plus âgé, il faut vous trouver dans une situation où vos enfants auront réussi. Vous n'aurez comme souci que votre bien-être et équilibre personnel.
Nous remercions le professeur Koumé Mamadou qui nous répondait depuis Dakar au Sénégal.
Quelqu'un l'a vécu ? Voici son témoignage.
En Afrique, le suivi des personnes âgées est assez particulier puisqu'elles vivent dans les familles et ne sont pas logées dans les centres spécialisés. Mais ce n'est pas toujours le cas. Au Burundi, par exemple, il nous a été révélé que plusieurs vieillards sont abandonnés à l'hospice Sainte-Élisabeth de Bujumbura. Certains meurent parfois sans l'assistance de leur famille. Écoutons le témoignage du docteur Willy Gatoré, le responsable de ce centre.
Actuellement, nous avons 63 pensionnaires qui ont une moyenne d'âge de 73 ans.
Est-ce que c'est un centre subventionné par l'État ou c'est un centre privé?
Alors, c'est un centre privé dirigé par les sœurs Ben Mutama, une congrégation religieuse. Mais actuellement, au Burundi, il n'y a pas de centre public, un centre dirigé par l'État, non.
Mm-hmm. Ces personnes âgées vivent dans votre centre, mais elles ont certainement ou probablement des familles. Quelles sont les relations qu'elles entretiennent avec les membres de leur famille?
La plupart de ces personnes âgées sont venues à l'hospice parce qu'ils ont été abandonnées au niveau de leur famille. D'autres ont été amenées par les leurs au niveau de l'hospice Sainte-Élisabeth, mais actuellement, il n'y a pas de visite régulière pour ces personnes âgées. Ils ont été complètement abandonnées par leur famille. On déplore parfois des situations où un de ces pensionnaires arrive à décéder et qu'on ne parvient pas à trouver les quarantaines qu'ils ont amenés. On remarque que les numéros de téléphone qu'ils laissent ne sont pas corrects.
On pourrait se dire qu'une personne âgée qui quitte sa famille et la vie qu'elle a toujours vécue pour venir dans un centre comme celui-là peut affecter ses émotions. Quel est votre commentaire à cela?
Nous faisons face à des cas de dépression suite à ce délaissement familial. Alors, ils souffrent beaucoup de problèmes de maladies psycho-émotionnelles liés effectivement à ce délaissement des membres de la famille.
Justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des maladies fréquentes qui affectent le plus les personnes que vous hébergez dans votre centre?
Il n'y a pas de maladie ici qui est de la personne âgée. C'est plutôt des maladies déjà adultes. Si quelqu'un a été diabétique ou hypertendu, à l'âge âgé, cela va s'exacerber. Mais c'est plutôt des maladies liées à l'alimentation, à la prise en charge psycho-émotionnelle. Mais dans notre hospice Sainte-Élisabeth, il n'y a pas de maladie vraiment spécifique.
Nous remercions le docteur Willy Gatoré qui nous répondait depuis Bujumbura au Burundi.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Armand Gienkap, a répondu à vos questions. Le docteur Nguyen Cap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France.
Bonjour docteur, mon frère a 10 ans et fait encore pipi au lit. Est-ce que c'est normal docteur? Jusqu'à quel âge peut-il s'arrêter de faire pipi au lit? Qu'est-ce que je veux faire pour mon frère?
Bah, il faut dire que faire pipi au lit en médecine, ça s'appelle l'énurésie. En fait, c'est une miction, enfin, c'est une façon de faire pipi de façon complète, de façon involontaire, vraiment, et puis surtout de façon inconsciente, et ceci pendant le sommeil de l'enfant. Le contrôle physiologique, notamment de ce sphincter vésical-là qui permet d'éviter de faire pipi, s'acquiert à partir de 5 ans. Donc, on va effectivement dire qu'un enfant souffre du fait de faire pipi au lit lorsqu'il continue à faire pipi au lit au-delà de l'âge de 5 ans. En dessous, c'est très difficile d'en parler parce qu'il y a des enfants qui vont être propres, comme on dit, la nuit très précocement, mais il y a d'autres qui vont être propres la nuit tardivement. Mais à partir de 5 ans, on peut constater que c'est une anomalie. Là aussi, on a 10 à 15% des enfants de 5 ans qui font encore pipi au lit et lorsqu'ils ont 8 ans, ce chiffre tombe à 6 à 8% et lorsqu'ils ont plus de 8 ans, à savoir 10 ans comme le frère de l'auditeur qui appelle, ce chiffre tombe entre 1 et 2%. Mais il faut avouer que progressivement, l'enfant va connaître la maturité de sa vessie, à savoir qu'il va réussir à contrôler un tout petit peu sa miction la nuit dans son sommeil du fait de cette maturité vésicale-là avec l'âge. Toutefois, l'auditeur ne précise pas si le fait de faire pipi au lit est quelque chose de permanent, à savoir toutes les nuits, ou si c'est quelque chose d'épisodique. En général, lorsque l'enfant fait pipi au lit de façon permanente, là on est vraiment en présence d'une énurésie maladie, à savoir d'une pathologie, d'un acte concret, d'une immaturité vésicale qui va se manifester effectivement par des incontinences nocturnes toutes les nuits. Mais si cet acte-là survient de façon épisodique, à savoir que ce n'est que de temps en temps, quelques nuits, de façon exceptionnelle que l'enfant fait pipi au lit, là il faut aller chercher une autre cause. En général, les causes sont plutôt des causes d'ordre psychologique. Il y a peut-être un trouble psychologique dans la famille, il y a peut-être quelque chose qui est survenu dans la famille qui bouleverse psychologiquement l'enfant. Et à ce niveau-là, on se trouve en présence vraiment d'une énurésie qui est d'origine psychologique. Quoi qu'il en soit, le conseil que je peux donner à notre auditeur, dans un premier temps, c'est déjà le rassurer en disant que son frère ne continuera pas à faire pipi au lit. Au bout du compte, cette vessie-là connaîtra sa maturation et il fera de moins en moins pipi au lit. Mais il faudrait quand même qu'il amène son frère consulter un médecin afin qu'il puisse déterminer vraiment la cause. Si la cause est une cause maladie du fait d'une immaturité vésicale, il y a effectivement des traitements qui existent qu'on peut donner à l'enfant pour qu'il puisse avoir moins envie de faire pipi au lit. C'est des médicaments qu'on donne contre ce qu'on appelle l'énurésie, médicament qu'on donne vraiment contre l'incontinence nocturne de l'enfant. Et c'est un médicament qui va accélérer la maturation vésicale. Par contre, si c'est d'ordre psychologique, bon, bien évidemment, il faut un suivi psychologique. Dans l'attente, les conseils que je peux donner à notre auditeur, c'est que dans un premier temps, le soir, il faut éviter de faire boire cet enfant-là dans les heures qui précèdent le fait qu'il va aller au lit. Il faut éviter de le faire boire des boissons. Et surtout, il faut absolument l'amener faire pipi avant qu'il se couche. Voilà les deux mesures qui vont lui permettre d'éviter de faire pipi au lit en attendant une éventuelle consultation médicale pour préciser exactement la cause. Voilà ce que je pouvais dire à cet auditeur.
Bonjour docteur, je suis Dudo Kaimbe, acteur de la société civile à Goma, au chef-lieu de la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Docteur, je voudrais savoir, ces enfants nés avec le VIH-Sida, peuvent-ils espérer un jour guérir de cette maladie? Y a-t-il des soins particuliers que ces enfants suivent afin qu'ils grandissent avec une santé de fer?
Ce que je peux expliquer à cet auditeur, c'est que le traitement du sida connaît actuellement des innovations et une révolution certaine, notamment le traitement à base d'antirétroviraux. Grâce à ce traitement antirétroviral, lorsqu'il est pris précocement, à savoir que le dépistage doit aussi être précoce, chez les enfants, le dépistage doit être fait dès la naissance par des tests de dépistage qui sont faits chez l'enfant, notamment par le dosage de la PCR du VIH qui est fait autour de 6 semaines de naissance de l'enfant pour savoir si cet enfant-là est effectivement infecté par le virus du sida. Lorsque les traitements par antirétroviraux sont donnés très précocement, ces traitements très efficaces qui permettent à ce que la charge virale soit quasiment indétectable. Et lorsque la charge virale est indétectable, ces enfants-là sont quasiment bien portants. Ces enfants grandissent avec un poids satisfaisant, ils grandissent avec une maturité satisfaisante et ils ne sont pas différents des enfants non infectés. Toutefois, ce traitement antirétroviral doit être bien suivi et ceci associé aussi à une bonne nutrition, une bonne alimentation, une bonne hydratation. L'auditeur voudrait aussi savoir s'il y a des soins particuliers que ces enfants doivent bénéficier afin qu'ils grandissent avec une santé de fer. Il faut dans un premier temps savoir que le traitement antirétroviral doit être pris à vie et doit être pris de façon régulière. À côté de ce traitement médical, il y a aussi un suivi médical de l'enfant parce que l'enfant a des vaccinations. Il faudrait qu'il puisse bénéficier de ces vaccinations pour qu'il ne puisse pas attraper d'autres infections à côté. Et il faut aussi que cet enfant-là puisse bénéficier d'un soutien psychologique, d'un soutien social, qu'il ne soit pas victime de stigmatisation, que cet enfant ne soit pas victime de discrimination et que ces enfants ne soient pas abandonnés à eux-mêmes. Et dans ce soutien psychologique, il faut vraiment un soutien nutritionnel. C'est des enfants qui doivent avoir une alimentation équilibrée, associée à une très très bonne hydratation. Lorsque les enfants ont effectivement cet environnement qui comprend un bon suivi médical et un bon suivi psychosocial, c'est des enfants qui grandissent comme s'ils n'ont même pas été malades du virus du sida, c'est-à-dire qu'ils grandissent vraiment de façon efficace, de façon pleine, de façon normale, avec un bon poids et avec une taille tout à fait satisfaisante. Et c'est des enfants aussi qui grandissent avec une santé de fer parce qu'il y a un suivi médical et psychosociologique dont ils bénéficient qui est très appréciable. Voilà ce que je pourrais répondre à ces deux questions que posait l'auditeur depuis la RDC.
N'oubliez pas, si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook, sur le site web de VOA Afrique, www.voafrique.com et sur nos télévisions partenaires.
Et c'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition a été consacrée à la santé des personnes du troisième âge. Un sujet de plus en plus important alors que la population de ces personnes devrait doubler d'ici 2050 selon les projections de l'Organisation des Nations Unies. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le professeur Koumé Mamadou, gériatre et gérontologue, chef du service de gériatrie au Centre Hospitalier National Universitaire de Fan à Dakar, au Sénégal. Il nous a parlé des maladies les plus fréquentes chez les personnes âgées et de leur prise en charge. Nous avons également écouté le témoignage du docteur Willy Gatore, responsable de l'hospice Sainte-Élisabeth de Bujumbura au Burundi, un centre qui accueille de nombreuses personnes âgées. Il nous a parlé des problèmes de suivi de ces personnes, dont certaines sont abandonnées dans son centre. Nous leur disons tous merci.
Merci aussi à Firmin Koyaweda qui était là pour nous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants à RDC, Gabriel Lina à Lubumbashi, Béro Matanda à Kinshasa et Erika Smouissi à Béni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Georges Léonard Sagnot et de Aiden Utko qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec
Rosine Monezero
et Mamadou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À la prochaine.
c'est votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.